Bonjour, voici la suite du premier épisode avec Michel Villeneuve. Un des domaines qui nous touche chaque jour et qui est essentiel à toute l'humanité, c'est le monde de l'agriculture et des fermiers. Un univers complexe, important et souvent méconnu par ceux qui ne sont pas du milieu. Oui, on sait c'est quoi une ferme, mais savons-nous vraiment comment tout fonctionne dans une ferme? Personnellement, j'en ai aucune idée. Plongeons ensemble dans cet univers et apprenons aux côtés de diverses personnes du domaine. Je vous présente GoFM dans le pré. Mais t'as mentionné aussi qu'il y a plusieurs processus parce que, tu sais, tout ce qui est alimentaire souvent qu'on a, ça a été peut-être transformé. T'as mentionné la pasteurisation qui est juste bouillir quelque chose.
C'est ça. La pasteurisation, c'est juste bouillir les choses pour éliminer puis s'il y avait des bactéries dedans, exemple. Tu vois, nous, on vend du jus de Camerise pur. Mm-hmm. C'est produit par la ferme Les Fruits du Poirier à Saint-Eugène. Puis eux autres, c'est ça qu'ils font. Pour leur jus, ils pasteurisent. Donc, okay. Ça me prend une cuisine certifiée pour faire ces choses-là. Nous, on ne l'est pas. Fait que nous, on ne pasteurise pas. Mais on avertit les gens. Il faut avoir d'autres techniques. C'est pour ça qu'on les gèle. Tu vois, le gelé va faire qu'il n'y aura pas de problème là, parce qu'on le met à moins 20, là, puis...
Puis la pomme, elle gèle, puis tout...
Le jus gèle.
Le jus gèle, voilà. Ouais. Puis tu as mentionné qu'il y a d'autres techniques. Quelles sont ces techniques-là?
Pour la conservation, déjà, ils mettent du sel, mais nous, on fait ça. Ou tu peux canner. Mm-hmm. Encore, quand tu fais du cannage, c'est toujours avec du sucre, la plupart du temps.
Ah oui?
Puis en faisant bouillir. En faisant bouillir, bien, c'est la même chose. Si tu mets dans des pots scellés, là, t'es correct avec ça, pour faire la transformation.
Mais comment que, tu sais, quand tu vas à l'épicerie puis tu vois des patates en canne ou n'importe quoi en canne qui est dans de l'eau, ça...
Et du sel.
Et du sel?
La plupart du temps, il y a du sel.
OK, donc c'est...
Ils ont rajouté des produits. Si c'est pas du sel, qui est un petit peu plus naturel, là, il y a moins de produits. Il y a d'autres produits qu'ils vont mettre. Puis tu vois, exemple... Nous, dans notre vin, on met de l'acide ascorbique, on n'a pas le choix. C'est de quoi qu'ils nous disent de faire pour tuer des bactéries. Fait que c'est ça. Puis si tu regardes, dans la majorité du cannage, il va avoir un genre d'acide dedans.
OK.
Pour la conservation.
OK, puis donc cet acide-là, c'est pour aider à tuer les
bactéries. Et conserver.
OK, parce que des fois... J'ai jamais été porté à acheter des fruits puis tout ça en canne parce que je suis comme, comment qu'ils font pour
mais
rester?
Là, il va y avoir tout du sucre, c'est ça. Puis tu bouillis. En faisant bouillir, tu élimines les problèmes. Puis tu selles quand c'est très chaud, fait qu'il n'y a plus d'air. Fait que c'est l'air qui va causer que les choses deviennent pas bonnes.
Mm-hmm, pourrissent.
C'est ça. Puis tu vois maintenant, pour les pommes, au lieu de mettre les canner, puis pour les conserver longtemps... Maintenant, je ne sais pas comment on dit ça, des bins. Mm-hmm. Tu sais, déjà, c'est un gros carré, là, tu mets énormément de pommes dedans. Mm-hmm. Bon, bien là, ils sont scellés, puis tu peux enlever l'air de dedans.
OK.
Automatiquement, il y a de quoi qui retire l'air. Fait que là, la pomme reste où qu'elle est. Elle ne peut pas se gaspiller, il n'y a pas d'air pour la faire vieillir, la faire pourrir, rien. Fait que comme ça, tu peux conserver tes pommes à la même saveur qu'elles étaient quand tu les as cueillies.
Puis il n'y aura pas de changement. Non, c'était...
Puis ça, c'est une autre façon... C'est pas de la transformation, mais c'est une autre façon d'étirer la vie des fruits.
Puis aussi, ben, de la viande, parce qu'un des exemples de ça, quand mettons, tu vas au Walmart puis t'achètes un steak ou, mettons, du poisson, ben souvent, c'est scellé.
C'est scellé, oui, parce qu'ils ont enlevé l'air dedans. C'est toujours le fait d'enlever l'air qui élimine la détérioration. le fait que les fruits vont se gaspiller ou la viande rapidement.
OK, donc c'est vraiment l'air qui cause un problème. Ben, pas l'air, mais l'oxygène cause de
l'oxydation.
L'oxydation, c'est ça. Et... aussi, il y a d'autres processus, genre pour le lait, peut-être la pasteurisation aussi.
Oui, c'est la pasteurisation. Je ne suis pas tout à fait au courant de celle-là de la technique qu'ils utilisent, mais c'est la pasteurisation. Mm-hmm. Habituellement, c'est bouillir. Bouillir, c'est ça qu'ils appellent la pasteurisation.
Mm-hmm. Puis, Toi, dans ta ferme, c'est tu fais principalement la fermentation, puis aussi peut-être la fabrication d'aliments avec d'autres produits. Tu sais, on peut comme le vin. Ah non. Non, le vin, c'est la fermentation.
C'est toute la nous, c'est vraiment toute la fermentation puis la congélation.
Mm-hmm.
Tandis on congèle beaucoup de bleuets.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, on le fait. Puis ça, c'est quand on cueille, on les. C'est pour ça qu'il faut. On congèle tout de suite. On a plusieurs congélateurs, puis tout va dedans. Parce que dans notre processus de faire du vin, le vin va faire 2 semaines au congélateur.
Pour
aider dans les processus. Mais ça, c'est plus difficile à expliquer, là.
Mm-hmm. Puis il y a combien de processus à peu près? Parce que ça prend pas genre 2 jours à faire un vin?
Non, en moyenne, c'est de 6 à 8 semaines.
OK.
Puis la fermentation va être entre 10 et 15 jours pour la majorité des vins. Il y en a qui sont plus lents.
Mm-hmm.
Mais plus c'est lent, par contre, ça donne plus de saveur normalement au vin. Puis okay. Nos 2 vins de dessert qui sont à l'érable et le plaisir d'automne qui est fait avec du sirop de pomme, ça, c'est un porto. Les autres vont prendre 4 à 5 mois.
OK. Parce que tu sais, dans le vieux temps, il y avait genre des barils en bois où est-ce qu'ils mettaient tous les produits dedans, puis ils scellaient ensuite ce baril de bois-là.
Oui, mais avec le quand ils utilisent, c'est plutôt pour le raisin, c'est pour changer la saveur du vin. Parce que le bois, tout dépendant du bois qu'ils vont utiliser, ça va amener une très bonne saveur au vin, puis ils vont le laisser vieillir dedans.
Okay.
Mais ils peuvent faire ça avec les vins rouges seulement. Les vins blancs, tu peux pas faire ça. J'en connais pas là, qui vont en barrique. Mais les vins rouges, oui. Parce que les vins rouges se gardent longtemps à cause du tannin qu'il y a dedans. Puis c'est ça qui va affecter la saveur du vin.
Ah, ben c'est-tu ça aussi qui fait que, tu sais, il dit qu'une bouteille de vin, le plus longtemps que c'est en bouteille, le mieux que c'est.
Oui, mais c'est le tannin qui permet de vieillir.
Et c'est quoi ça, le tannin?
C'est un produit que dans la pelure du raisin.
OK.
Donc, si tu presses tous les raisins, peu importe la couleur, tu vas avoir du vin blanc. Pour pouvoir avoir du vin rouge, il faut que tu laisses les pelures dedans.
OK.
Puis, en fermentant avec la pelure, ça transfère la couleur et le tannin dans le vin. Puis, c'est pour ça que tu as des vins rouges. Puis là, tu peux te permettre de les laisser vieillir plus longtemps, moins longtemps. Ça va altérer la saveur. Mais par contre, ce que ça fait avec le tannin, c'est quand tu rouvres ta bouteille de vin rouge, il va oxyder très vite.
Mm-hmm.
Donc, tu as juste 2-3 jours pour le boire. Tandis que tu n'as pas ce problème. C'est pour ça que ça fait avec le vin blanc.
Mm-hmm.
Puis c'est la même chose avec les vins de fruits. Nous, il n'y a pas nécessairement du tannin dans les fruits.
Mm-hmm.
Donc, une fois que tu les ouvres, ils vont se conserver. Nous, on a fait des essais. Habituellement, on a arrêté à 50 jours parce que le vin n'avait pas perdu de saveur, mais pas du tout. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a des produits naturels dans les fruits qui vont affecter ce que tu fais avec, que ce soit pour la transformation ou encore, pour le vin surtout, là.
Puis ça, le tannin, ça passe pas date nécessairement parce que des fois, il y a des gens qui rouvrent des bouteilles qui ont été scellées genre de 200, 300 ans passés.
Oui, ça peut pas de date. Non, il n'y a pas de date.
C'est un peu comme le miel. Parce que le miel, ça passe pas vraiment date non plus.
Non, parce que c'est juste du sucre. Mais d'abord, il n'y a pas ça passe pas de date parce que le pot est scellé. Parce qu'il n'y a pas d'air dedans. Puis c'est la même chose avec ta bouteille de vin. C'est que habituellement, tu n'es pas supposé avoir d'air dedans.
Mm-hmm. Parce que c'est une fois que l'air rentre dedans, ben là, c'est là que le tannin va oxyder.
Oxyder, oui. C'est ça, tu n'as pas d'air habituellement dedans.
C'est vraiment intéressant. Puis, toi, tu as mentionné aussi tantôt que tu es en train de faire l'expansion de rhubarbe. Après la rhubarbe, tu penses-tu planter d'autres légumes pour essayer de faire la production ou tu crois aller un peu plus vers les fleurs?
Je sais pas, là, parce qu'on commence à en avoir beaucoup. c'est faire beaucoup de vin, ça. Mm-hmm. Puis on commence à manquer d'espace à la ferme.
Faudrait acheter un autre terrain au grand complet.
Oui, non, mais il faut s'équiper. Il faut avoir plus d'équipement. Parce que tu vois, il y a une des contraintes avec ça.
Okay.
Exemple, le vin à l'ail, la saveur reste. Donc, aussitôt qu'on utilise des berries, de l'équipement, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. On peut juste laver, le mettre là, puis la servir l'année prochaine. Donc, ça fait bien de l'équipement à conserver.
Mm-hmm.
Fait que tu vois, là, c'est ça. Il y a des, on s'est aperçu là, qu'il y avait des, des choses qui arrivaient qu'on peut faire. Mais là, à un moment donné, il manque d'espace.
Bien, c'est certain.
Puis, on manque de temps aussi.
Mm-hmm.
Mais on va, nous, par contre, on va abandonner certaines variétés de vin.
OK.
Qui, tu vois, exemple, nous, on faisait un vin de glace au poire à partir du vin de poire. Mais on a tellement de problèmes à avoir des poires que puis notre vin de poire est très populaire. On va laisser tomber le vin de glace puis on va juste faire du vin de poire.
OK.
C'est la même chose avec les autres. Il y a des vins qui sont un petit peu moins populaires qu'on ne refera pas.
OK. Puis pour la machinerie, tu as mentionné que tu as besoin de beaucoup d'équipement pour ça. Peux-tu nous donner une idée de comment d'équipement que vous avez?
Nous, on n'a pas beaucoup d'équipement parce qu'on fait tout à la main. C'est vraiment une façon très ancestrale de faire le vin qu'on a. Fait que nous, on a des broyeurs, deux broyeurs. On brasse avec une rame en acier inoxydable. Nous-mêmes, c'est dans des barils de nourriture. C'est des barils pour la nourriture qu'on utilise. Donc, puis, quand on embouteille, on a une embouteilleuse pour une bouteille à la fois, puis on bouchonne à la main. Puis là, mais c'est ça, on s'en vient. Puis ça, je dis, on va, à un moment donné, on va arrêter parce qu'on est rendu à la limite de ça.
Mm-hmm.
Mais
parce que ça prend beaucoup de temps.
Ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas trop dispendieux. Mais par contre, moi, la ferme, elle va continuer dans notre famille. C'est une de mes filles qui prend la ferme. Ce sera elle à décider ce qu'elle veut faire si on fait un saut vers autre chose. Parce que tu vois, on a eu des problèmes durant la COVID.
OK.
La COVID a causé plein de problèmes tout partout. Soit au niveau des bouteilles, au niveau des bouchons de liège. Il y a bien des choses qui sont importées qu'on n'avait plus du tout. Fait qu'ils sont devenus très chers. Puis là, il manquait de liège. Ils ont essayé des bouchons synthétiques. Ça fonctionne plus ou moins bien. Mais donc, maintenant, ils vendent plus tôt. On vend surtout des bouteilles avec des bouchons qui sont vissés. Fait qu'on pourrait passer vers ça. Mais là, c'est changer complètement d'équipement. Fait qu'il y a des coûts à ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, on va être rendu là, mais ça ne sera pas à moi de décider.
Ben, c'est...
C'est la prochaine génération.
Ben oui, puis c'est aussi l'avancée technologique. C'est est-ce que vous allez continuer de faire la façon ancestrale ou est-ce que ça va être d'apporter les technologies pour avec les brasseurs puis tout ça, j'imagine.
Ouais.
Ça se fait c'est parce que...
Donc, c'est parce que... De changer les technologies, c'est que nous, nos berries, le plus qu'on peut mettre dedans, c'est 200 litres.
OK.
Donc, exemple, comme j'ai dit, le vin de poire, on a fait 6 berries parce qu'on peut mettre juste 200 litres dedans. Mais on avait plus de jus que ça. Donc, c'est ça de déménager à faire fermenter dans des contenants. C'est des tanks là, qu'ils appellent en stainless steel. Mais là, tu parles de 400 à 800 litres, là, même 1000 litres. Donc, ce serait faire des gros volumes dans une fois. Mais là, c'est s'équiper. Là. Ça prend la hauteur, ça prend tout l'équipement, ça prend de l'eau qui rentre dedans. Mais c'est ça. Là. C'est une façon de faire, mais à grande échelle.
Puis en ce moment, c'est vous préférez le faire à plus petite échelle?
Oui, mais moi, c'est mon projet de retraite. Parce que moi, c'était le verger, mon projet de retraite. Puis je vous ai mentionné que mon ami qui faisait du vin, là, j'avais poussé à Monklin. Bon, mais c'est lui qui m'a montré, mais lui, c'est ça, c'est une façon ancienne de faire. Ça s'adapta bien à mes vieilles édifices. Tout pouvait entrer. On pouvait faire ça à l'intérieur même de nos granges. Mais là, on n'a pas investi dans les équipements puis les bâtisses. On s'est juste adapté, là, ça s'est rajouté à nos vergers, là, c'est tout. Puis on avait déjà les fruits, donc on pouvait augmenter les choses à essayer.
OK. Puis, tu as mentionné tantôt avec la COVID que vous avez eu de la difficulté avec les bouteilles puis aussi les bouchons de liège.
C'est ça.
Pourquoi il faut que ça soit en liège?
C'est parce que le liège est très bien compressé puis il n'y a pas d'air qui passe.
OK.
Puis donc, s'ils sont bien faits, le liège, c'est facile à bouchonner une bouteille avec, mm-hmm. avec la bouchonneuse. Puis, ils ont essayé avec le synthétique, mais je trouve le bouchon n'a pas autant de... Ils vont avoir des coulisses dedans.
Mm-hmm.
Juste par expérience, on n'a pas fait longtemps. Puis les gens disaient qu'il y avait des problèmes, que la bouteille de vin n'était pas bonne. Fait que c'est ça, je veux dire que c'est pas bien scellé.
Mm-hmm. OK, donc c'est vraiment pour... Donc l'emballage fait partie aussi un peu de ce processus-là important. Oui,
c'est très important. Mais c'est pour ça que je dis, même quand on fait des conserves,
mm-hmm.
faut pas qu'il y ait d'air. Donc ça prend des... C'est pour ça que Masson est très bon avec leurs produits. Tu peux garder la peau, mais tu peux juste changer les couvercles.
Mm-hmm.
Donc, mais ça scelle très bien. Donc, la bonne technique, c'est ça, l'équipement est très bon pour ça. Maintenant, il y a des pots que tu tournes, mais c'est la même chose. Ces pots-là peuvent être utilisés juste une fois parce qu'après ça, il a perdu la façon de sceller.
OK, puis l'air rentre dedans.
Puis c'est ça qu'on a dit, là, c'est l'air qui cause que ça pourrit ou que ça, ça devient plus bon, là, que ça oxyde.
Puis ensuite, vous... Est-ce que vous planifiez peut-être d'aller de vendre votre vin peut-être à la LCBO dans des magasins d'alcool éventuellement ou...
Non. J'ai regardé. Les coûts sont exorbitants.
OK.
Ils prennent beaucoup trop de... Je ne sais pas le nom français, là, de markup. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup trop élevé. Donc, c'est pour ça que tu ne vois pas de producteurs. Si tu regardes juste les vignobles alentour, les brasseries, ils ne sont pas là. Parce que le coût est beaucoup trop élevé. Ils ne te donnent pas d'argent, là, vraiment pas pour ce que tu produis. Là. C'est ridicule. Donc, les gens vendent de la maison ou dans les marchés fermiers.
Mm-hmm.
C'est ce que je fais. Mais là, cette année, chez nous, on a décidé de ne plus aller au marché fermier le moins possible. Fait qu'on a rénové notre grange. Notre grange qui a 175 ans, on a maintenant une salle de dégustation.
OK.
Les gens peuvent arrêter. On a des heures d'ouverture. Les gens peuvent arrêter. Puis on a mis un mini-marché à l'intérieur de notre salle de dégustation, juste de produits locaux.
OK.
Des produits où ce que nous, on va chercher comme exemple, on a besoin du sirop d'érable. On ne fait pas de sirop d'érable, mais on prend le sirop d'érable de la ferme Saint-Malo à Sabrascal, mais là, on vend leurs produits à l'érable. C'est la même chose avec les fruits du poirier. On a 4 fruits qui viennent de là. Donc, on vend les produits des fruits du poirier à la ferme.
Mm-hmm.
Donc, ça fait. On essaie de tous s'encourager un et l'autre pour pouvoir faire la promotion de nos producteurs locaux.
Bien, c'est certain parce que c'est important, on le voit pas, mais les fermiers, c'est eux qui produisent tous les produits essentiels qu'on a besoin pour survivre, que ce c'est soit ça. La nourriture, les fruits, la viande, puis aussi tout ce qui englobe l'agriculture.
Exactement. Fait que, puis nous, c'est ça, nous, on fait des activités à la ferme.
Mm-hmm.
Une de nos activités la plus principale, c'est les vins fromages.
OK.
Fait que c'est des dégustations de vins fromages. Donc, les gens viennent, puis vont pouvoir goûter les 18 vins qu'on a
mm-hmm.
dans l'événement. Puis c'est accompagné de 6 fromages, puis de 3 viandes, c'est tous des produits locaux. On fait la promotion, mais on a tout marié. Donc, c'est pour ça qu'on revend ces produits-là.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, c'est des activités, là. On essaie de tout combiner ensemble.
Fait qu'au lieu d'aller à des marchés de fermiers puis tout ça, vous autres, vous vous dites, OK, ben on va faire nos activités où est-ce qu'on peut vraiment englober tous les producteurs de la région.
C'est ça, ben oui. Je dirais pas toutes.
Mais la grande majorité.
Plusieurs producteurs de la région.
Oui.
C'est ça. Puis on en fait un marché fermier nous-mêmes.
OK.
On a fait juste 2 par année. On a eu un le 22 juin, ça a très bien été. Puis on a fait un autre le 12 octobre à la ferme directement. Fait que c'est ça, là. C'est tous des producteurs locaux qui viennent vendre leurs choses.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, là. Puis on s'encourage de même, puis ça fait découvrir aux gens les produits locaux près de chez nous.
Et avant que vous faites le vin, vous, c'est qu'est-ce que vous faisiez au verger Villeneuve?
Moi, on vendait juste les fruits. On cultivait, okay. On cultivait le bleuet, la framboise, ça fait juste 5 ans, mais le bleuet, la pomme, la poire occupaient la grande majorité de notre verger. Mais moi, ça, c'est ma retraite. Moi, j'ai travaillé comme fonctionnaire à Transport Canada pendant 33 ans.
OK, puis c'est ensuite...
Je faisais les deux, là. J'avais le VRG et j'étais un fonctionnaire en même temps.
Fait que ça a dû être beaucoup d'heures de travail que vous aviez à faire pendant...
Pendant 20 ans, oui. Mais ça, c'était mon plan de retraite. Pour ça, je me disais, je vais me retirer à la ferme. Puis, tu vois, mon ami qui faisait du vin, il prenait de mes bleuets pour faire son vin de bleuet. Mm-hmm. Puis lui, sa santé a périclé. Fait que là, il m'a offert de prendre la relève parce que ses enfants ne le voulaient pas. Mm-hmm. Puis j'ai passé un an. Quand j'ai pris ma retraite, la première année, j'ai passé un an avec lui pour tout apprendre. Mm-hmm. Puis tout déménager. Et sa grange, il m'a donné sa grange. Fait qu'on a tout démonté planche par planche, puis on a rebâti chez moi pour agrandir la mienne.
Wow!
Puis c'est ça, là, que l'édifice qu'on a. Puis c'est ça. Puis là, j'ai commencé à faire le vin après un an à la retraite. Fait que là ça occupe. Là, je suis vraiment occupé, là. Parce qu'on a rajouté... Oui, dans les 5 dernières années, on a rajouté les framboises, les cerisiers. On a mis tous les arbres de Noël. Mm-hmm. Donc, il faut tout entretenir, là. C'est que ça nous fait 10 arbres qui attendent de la pelouse, puis à faire sûr que tout pousse bien, à tailler. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis on va rajouter d'autres framboises à cause de Mère Nature, qui cause des problèmes, là. Mm-hmm. Nous, notre champ de framboises est irrigué, il est drainé. Mais même à ça, il y a des plants qui noient. Parce qu'avec tous les excès de pluie qu'on a, on est obligé d'avoir à déménager ailleurs.
Et comment ça fonctionne, le drainage des champs?
C'est fait par la pointe de drainage avec des tuyaux. Ils font des canals, puis ils se trouvent à mettre un tuyau qui absorbe l'eau à peu près à 2-3 pieds sous terre.
OK.
Donc, l'eau va prendre le tuyau parce qu'on va dans un fossé qui est plus bas.
Mais avec le montant d'eau qu'on a eu cette année...
Ça ne fournit pas. Il va falloir l'améliorer. Puis c'est ça. Puis là, on a décidé tout simplement, nous, de changer les choses de place.
OK. Qui est une autre façon de faire.
Parce qu'on a des... On va enlever les raisins. On ne fera plus de raisins. On ne s'en sert pas. Mm-hmm. Mais par contre, on s'est aperçu, avec les changements climatiques, il y a des problèmes maintenant. Vous avez probablement entendu parler des tiques.
Oui, les tiques.
Puis les fameux scarabées japonais.
Pas eux autres.
OK. Ils dévorent tout.
OK.
Mais vous voyez, avant, on n'avait pas de problème. Ils ne survivaient pas à nos hivers. Mm-hmm. Donc, ça restait plus au sud. Maintenant, quand nos hivers sont beaucoup plus doux, ces insectes-là peuvent vivre ici. Puis c'est pour ça, là, maintenant, qu'on a des tiques. Okay. Moi, j'avais jamais entendu parler d'une tique il y a 10 ans. Mais c'est ça qui arrive. Puis les scarabées japonais, si vous en avez chez vous, ça dévore tout.
Ah ouais.
Mais ils ont des préférences.
OK. Donc, c'est une façon de peut-être les attirer vers les préférences.
Ça. Puis, vous voyez, nous, cette année, nos raisins sont tout mangés. Mais nos raisins sont situés en plein milieu de nos champs de fruits. Donc, ce qu'on va faire, on va les prendre, on va toutes les déterrer, on va les amener en périphérie, mm-hmm. attirer les scarabées japonais-là, on va les nourrir, on va leur laisser de la nourriture, puis ils vont pouvoir... puis nous, on va planter d'autres framboises, puis vraiment du caissier rouge à la place.
OK, puis comme ça, ben au moins, tu sais, tu peux pas les éliminer 100%, fait que t'es mieux faire, OK, ben on va faire un plan consacré vraiment pour eux autres, c'est comme ça, ils peuvent manger.
Ils peuvent manger, puis s'ils mangent tous les raisins, c'est correct. Ils sont là pour eux.
T'as mentionné aussi que vous faites pousser du sapin, puis tout ça.
Oui.
C'est comment ça fonctionne pour le sapin?
Ah, ça, c'est la chose la plus simple qu'il n'y a pas.
Ah, pour vrai?
Oui, tu fais juste les planter. Nous, on met même pas d'engrais. Ils sont plantés directement. Faut dire que nous, notre sol est très sableux.
Okay.
Donc, les arbres poussent très vite. Peu importe.
Ah oui?
Oui, parce qu'il n'y a pas de résistance. Si c'est glaiseux, c'est à cause de la résistance. Puis notre sol aussi, il est plus pauvre. Ils vont être plus haut, plus acides. Donc, en ayant du sol plus acide, ça favorise les arbres. Là. Nous, chez nous, là, les saupleureurs, ils ont 15 ans, puis ils sont au moins 2,5 pieds de diamètre. Là.
Wow!
C'est ça, là. C'est que ça. Puis les sapins, c'est la même chose. C'est 7-8 ans avant de les planter. Puis nous, après 5 ans, il y avait déjà 7 pieds de haut.
Wow! Moi, je pensais que dans ma tête, tu avais besoin d'un sol riche en nutriments pour qu'il pousse vite.
Ben, chez nous, je dirais pas que c'est juste sableux. Je dis pas que c'est pauvre, là.
Ah, OK, OK.
OK, c'est juste que ça donne une condition pour faire pousser, pour pas nuire aux racines.
Ah, oh, OK, fait qu'il y a différents
types de sol. C'est ça, avec un sol sableux ou même rocailleux, si ça va favoriser les racines. Donc, l'arbre va pousser vite parce qu'il trouve ses nutriments puis il est capable de pousser. La glaise, si c'est très sec, quand c'est glaiseux, ça fait des crevasses. Donc, ça peut faire de l'air sur les racines.
OK.
Puis, les racines sont très... La glaise, c'est très dur. Ils ont de la difficulté à pousser. Dans du sol, tandis que dans du sable, il n'y a aucune résistance. Donc, les racines peuvent prendre l'expansion très, très rapidement.
OK, puis tu as mentionné aussi, même si c'est rocailleux, mais les roches ne seraient pas dans le chemin des racines?
Oui, mais ça donne un autre nutriment qui est... Habituellement, si tu regardes en Europe, ils vont cultiver comme le raisin partout en montagne.
Ah oui?
Oui, c'est en montagne surtout, parce qu'il n'y a pas trop d'eau. Fait que ça force les racines à aller plus creux, mais ils sont capables de pousser sur la... Les sols rocailleux, habituellement, c'est les mieux là, pour les arbres.
OK, je savais pas. Moi, je pensais que c'était juste dans le chemin, puis les gens...
Pas nécessairement.
Mais...
C'est dans le chemin, c'est pour les cultures, quand tu utilises l'équipement. Parce que tu n'as pas besoin d'utiliser d'équipement, c'est pas dans le chemin.
C'est ça, parce que là, ben, les racines vont plus creux, puis ils trouvent...
Les nutriments qui viennent avec en ayant des roches.
Mm-hmm. Puis comme qu'on avait mentionné plus tôt aussi, des arbres, ça s'adapte.
Les arbres, ça s'adapte. Si tu regardes tout le nord canadien, c'est plein de montagnes avec des roches, mais c'est plein d'arbres.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, là. C'est des écosystèmes parfaits pour les arbres, là. Fait que chez nous, puis tu vois, nous, on fait pousser trois types d'arbres de Noël.
Mm-hmm.
Donc, on a le pin écossais.
OK.
Le sapin baumier. Puis l'épinette blanche.
OK. Puis c'est quoi la différence entre les trois?
Le type d'épines. Fait que... Tu vois, le sapin baumier, c'est lui qui est le plus lent à pousser.
Mm-hmm.
Mais c'est vraiment un sapin.
OK.
Donc, il y a une senteur. Tandis que l'épinette blanche, les épines tout le tour de la branche, parce que le sapin, c'est plat, la branche est plate. Puis, ça fait un autre type d'arbre. Mais il y a moins de trous.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est plus couvert. Tandis que le pin écossais, lui, il a des grandes épines. Là, il n'y a pas de trous. Ton arbre est très, très dense.
Mm-hmm.
Puis nous, la seule chose qu'on a à faire... C'est ça que je dis, la dernière semaine de juin ou première de juillet, c'est des taillis.
Mm-hmm.
Ce qu'on fait, parce que là, les repousses sont sorties, puis on coupe pour avoir une belle forme à pointu.
Mm-hmm.
Puis en coupant une branche, il en ressort une étoile. Quand je parle d'une étoile, c'est que quand tu coupes la branche, il ressort cinq branches au bout.
OK.
Fait qu'en coupant, fait que ton arbre va toujours être très dense, parce que à mesure qu'il pousse, tu coupes le bout, il refait une autre cinq branches. Puis c'est la même chose avec la tête. La tête, c'est la même chose. Ça va, si tu ne la coupes pas, elle va pousser tout droit. Mais tu la coupes en biais, puis le bout qui est en pointu, la tête va se refaire là, il va sortir quatre branches à côté.
Ah oui!
Fait que c'est pour ça, en coupant, en taillant, tu gardes la belle forme de l'arbre.
OK, donc c'est comme ça qu'on peut voir les arbres qu'on a à Noël.
À Noël, qui sont très beaux, oui.
OK.
C'est la taille qui fait toute la chose dedans.
OK. Donc, pour revenir à la première question que je t'avais mentionnée, ben, que je t'avais demandé tantôt, c'est pour ça que c'est important de tailler puis pas juste laisser pousser quelque chose.
C'est ça. Ben, pour les arbres de Noël, c'est pour avoir une belle forme. On pourrait les laisser naturels, mais ils seraient vraiment tout croche. Il y a bien des arbres qui vont avoir deux têtes, trois têtes, puis ils vont se séparer, puis il va y avoir des trous.
Mm-hmm.
Là, en les taillant, pour les arbres de Noël, ça fait une belle forme. Puis les arbres sont remplis. Puis ça n'affecte pas l'arbre du tout, là. Et comme je dis, il part d'une branche, puis en fait cinq.
Mm-hmm. Est-ce que tu penses peut-être faire... Donc, toi, tu les vends pour Noël?
Oui.
Puis est-ce que tu penses peut-être faire un vin avec de l'épinette ou quelque chose comme ça?
Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà posé la question. Ça se pourrait.
Ça se pourrait. Donc,
de faire de quoi? Ouais, c'est comme une bière d'épinette, là. Ça sera un vin à l'épinette.
Donc, toi, si c'est comestible, tu peux faire un vin avec.
Oui, en principe, oui.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous jaser aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Et tout le monde, je vous rappelle, c'est Michel Villeneuve des Vergers Villeneuve et Blueberry Farm. Est-ce que tu as un petit mot de fin pour les gens ou est-ce que les gens peuvent aller chercher ton vin ou venir voir ta belle ferme, tes beaux vergers?
Oui, les gens peuvent venir. Donc là, on va avoir la cueillette de pommes là, qui commence ce vendredi. Mm-hmm. Puis on est ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 11h à 5h. Vous pouvez passer, venir boire du vin, venir ramasser des fruits. Mm-hmm. Puis on va être ouvert toute l'année à ces heures-là. Puis quand on voulait, si vous voulez avoir des bleuets, des framboises et des cerises, mais ça, c'est au mois de juillet. Vous pouvez nous visiter, on est ouvert tous les jours là, pour l'auto-cueillette.
Et dernière petite question aussi, pour ceux qui veulent peut-être se lancer dans les vergers, dans les fruits, ou peut-être la production de vin, as-tu un conseil pour eux?
Oui, le terrain est très important, puis où sont situés, s'il y a des arbres, puis tout ça. Parce que avec les changements climatiques, il y a beaucoup de choses à tenir en considération. Puis tu vois, nous, chez nous, il n'y a pas d'arbres autour, mais nous, on a déjà planté nos haies brise-vent pour empêcher le vent de brûler les plantes l'hiver.
De brûler les plantes?
Oui, le vent, tu vois, s'il fait moins 30, mm-hmm. il fait moins 40, c'est très froid. Donc, comme les bleuets qui sont sortis de terre, il y a bien des plantes qui vont geler. En 2015, juste te donner des statistiques, là. Mm-hmm. En 2015, il y a eu plus que 30 jours où ce qui a fait moins 30. Mm-hmm. Puis en plus, avec le vent, on n'a pas eu un bleuet. Tout a gelé.
OK.
On était obligé. Le plant a gelé, là. Parce qu'il faut que tu dises, toutes les plantes qu'on a ici, le bourgeon se fait à l'automne. Donc, les bourgeons pour les fruits sont sur les plants déjà tout l'hiver. Mais s'il fait trop froid, ils peuvent geler. Parce que toutes les plantes qu'on a ici au Canada, habituellement, sont résistantes jusqu'à moins 26.
OK.
Il peut faire moins 30, mais il faut pas faire 30 jours de moins 30.
Donc, si ça dépasse ça, ben ils vont congeler.
Ça va les brûler. Ça va juste les brûler. Les branches sont petites, puis ils vont juste brûler.
Puis ils vont mourir, puis il faudra les changer.
Oui, mais tu vois, nous, les bleuets, c'est correct. Ce qu'on est obligé de faire, c'est couper à terre. Il faut attendre qu'ils repoussent.
OK, tes coupes...
La racine n'a pas brûlé. C'est les branches qu'on a brûlées.
Donc, tant que les racines sont correctes, c'est ça. L'arbre va revenir.
S'il y a de la neige. Nous, on a déjà perdu, il y a une année, qu'on a perdu 800 pommiers. Il n'y avait pas de neige, wow. Puis eu gros gel, puis les arbres étaient petits encore. Mm-hmm. Donc, les racines n'étaient pas assez profondes. Puis ça a brûlé. On a perdu 800 pommiers sur une section.
Wow. Puis évidemment, ben, la neige, ça joue comme un isolant.
C'est un isolant, la neige. C'est pour ça que ceux qui avaient le meilleur concept, c'était les Esquimaux dans le Nord. Mm-hmm. Ou bien, non, faut plus même dire les Esquimaux, là, mais les Inuits du Nord, mm-hmm. en bâtissant des igloos, puis mm-hmm. Ils se protégeaient du froid.
Oui, puis c'est la même chose avec les plantes. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de neige, mais il n'a pas fait froid.
Il n'a pas fait froid. C'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup de neige, mais il n'a pas fait froid. S'il avait fait froid, les dommages auraient été sérieux.
Mm-hmm. Puis tu avais mentionné aussi qu'à cause de la température, il y a des gens qui ferment.
Oui, exactement. Mais ça, c'est ça, on peut pas... C'est pour ça que nous, on essaie de se diversifier. C'est pour ça qu'on s'en va dans plus de produits différents, résistants. Il y a plusieurs fermes aux alentours. Comme nous, on n'a pas eu de pommes l'année dernière, mais il y en a que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas de pommes. Vous voyez, il y a deux, l'année du derecho, nous, on a eu zéro pomme. Parce que les arbres étaient en fleurs le 21 mai, puis il ne restait plus une fleur après que le derecho a passé. Fait qu'on n'a eu aucune pomme on a 450 pommiers, puis il n'y avait aucune pomme. Puis il y a d'autres endroits alentour qui avaient plus de pommiers, puis eux aussi, à force de se faire des choses qui gèlent, puis les coups de vent, ils ont décidé de fermer. Puis il y en a plusieurs fermes alentour là, qui ont décidé de commencer à fermer.
Juste à cause du changement climatique.
Parce que t'as plus de rendement. T'as pas vraiment plus de bon rendement. Aucune prévision.
Mm-hmm. Parce que comme... Ben,
puis la plupart du temps, t'es pas couvert par les assurances.
OK.
Pour ces choses-là.
Ouais, ben parce que c'est juste la nature, c'est...
C'est ça.
Puis il faut se rappeler que les agriculteurs, eux autres, ben vous autres, vous travaillez avec la nature, vous travaillez directement là-dedans, puis c'est pas vous qui contrôlez tout de A à Z.
Non, pas du tout. Fait que si on peut contrôler, on le fait. Exemple, tantôt, j'ai parlé de l'irrigation. Quand c'est sec, on peut arroser, mais quand il pleut trop, on n'a pas rien à accès à Champlure, on ne peut pas la fermer. Fait qu'on a ce qui passe.
Puis si vous avez des drains pour essayer d'aider, mais quand c'est des un pluies. Été comme ici...
Mais c'est ça, parce que tu vois, même les villes ont des problèmes. Là. Tu vois, il y a des... Dernièrement, il pleut tellement qu'il y a des beaucoup de routes là, qui sont lavées. Mm-hmm. Et ça fait la même chose dans ton champ. Là. Mm-hmm. Ça peut laver ton champ là, carrément. Puis les plantes vont moisir. C'est ça qui arrive.
Ah oui.
Ouais.
S'il y a trop d'eau, ben la plante, elle absorbe trop. Puis...
Elle pourrit. Non, c'est parce qu'il y a trop d'eau sur les racines.
Ah, OK. Donc, même si elle ne veut pas les absorber, ben
c'est ça. Ça fait... Elle a les pieds dans l'eau.
OK. Donc, puis... c'est comme nous autres. Si on tombe malade, si,
c'est
si
ça.
On reste trop longtemps...
La plupart des plantes n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau.
OK.
C'est standard. Mm-hmm. Parce qu'ils vont pourrir. C'est trop d'eau.
Mm-hmm.
C'est pour ça que la hauteur de... La nappe phréatique est importante. Tu parlais de quelqu'un qui, s'il veut partir une ferme, c'est toutes des choses à tenir en compte.
Ça. La nappe phréatique, ça, c'est l'eau dans le
sol? C'est le niveau d'eau dans le sol. Puis moi, tu vois, j'ai planté beaucoup d'arbres.
Mm-hmm.
Ils étaient même dans une côte. Puis je les ai tout perdus après 4-5 ans parce que la nappe phréatique était à 2 pieds. Mais même si j'étais dans une colline.
Oh, wow!
Donc... quand les racines ont commencé à atteindre l'eau, les arbres mouraient parce que la nappe phréatique était trop haute. Donc, il faut changer le type de culture.
Mm-hmm.
Il faut pouvoir mettre des arbres, parce que les arbres, les racines vont descendre plusieurs pieds dans le sol.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Là, c'est ça que je veux dire. Il faut juste en tenir compte.
Et est-ce que cette nappe phréatique-là augmente avec les niveaux d'eau comme... Oui. Qui descend aussi, il y a un été qui est beaucoup plus sec. Est-ce que ça descend?
Elle va descendre, mais c'est ça, là. Mais habituellement, tu atteins un niveau stable.
OK.
Comme cette année est très élevée. Moi, tu vois, j'ai un étang.
Mm-hmm.
Mon étang a 12 pieds de creux. Ma nappe phréatique, cet été, elle s'est tenue à 2 pieds du sol, en haut.
OK.
Puis, tu vois, des années très, très secs, je me suis aperçu... que c'était 4 pieds du fond. Passer 4 pieds, à part pas, mais je ne peux pas arroser autant.
Mm-hmm.
Comme il faut que ce qu'on fait, on égalise nos quand on veut arroser, là, mm-hmm. on va diminuer, ça va être juste 1 heure le soir, à tous les soirs, comme ça, puis on peut alterner les champs.
Mm-hmm.
On arrose un champ un soir, le lendemain soir, on fait l'autre section. Pour pouvoir... maximiser le petit peu d'eau qu'on a.
Donc, c'est vraiment important de savoir ton niveau d'eau à chaque année.
À chaque année. Oui, la nature, c'est notre plus gros point d'interrogation qu'on a. Il faut la connaître. Mais là, c'est quand même qu'on ne la connaît plus. On ne okay. peut même pas se fier sur les prévisions qu'ils donnent non plus. tu m'as parlé aux autres agriculteurs là, qui font du foin, ces choses-là. Ils donnent beau pour 4 jours. Ils coupent beaucoup de foin. Ils se mettent à pleuvoir le lendemain. Ça, c'est quasiment gaspillé.
Ah oui?
Oui, oui, c'est ça. La nature, là, c'est cette année, là, on travaille, c'était très, très difficile de travailler. Il y a bien des choses qu'on a sauté des étapes. On a perdu des récoltes à certains endroits, même dans les fruits, parce que ça va trop vite. Là, on ne peut pas se revirer sur une scène.
Ben c'est ça, parce que vous autres, vous êtes OK, ben on a des étapes à suivre, il faut faire ça, 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 mais si tu sautes une étape, il va avoir des pertes.
Il va avoir des pertes, c'est ça.
Puis à chaque année, pour ta nappe phréatique, c'est comment tu sais le niveau d'eau qu'il y a dedans?
Mon étang. Mon étang.
Ah, oh, ton étang, OK. OK.
Ça me donne la hauteur que de l'eau qu'il y a parce que c'est beaucoup de veines qui la fournissent. Puis c'est en bas d'une colline. Fait qu'on peut voir là qu'est-ce que... Même les gens qui viennent chez moi, ils disent « Oh, il y a de l'eau cette année ». Les gens font juste l'observation eux-mêmes.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a des années qui sont venues qu'on ne la voit pas, l'eau. C'est-à-dire que l'étang, on arrose beaucoup, fait que là, l'eau elle diminue.
OK. Puis pour ceux qui n'ont pas d'étang, y a-t-il une façon de connaître le montant d'eau?
Bonne question. Tu peux faire un trou.
Tu fais un trou, tu creuses juste avant que tu trouves de l'eau.
Tu trouves l'eau. Parce que tu vois, moi, quand j'ai perdu mes arbres, je dis, voyons, il y a un problème. J'ai juste fait un trou. Après un pied et demi, j'avais de l'eau.
Ah,
le,
oui.
Le trou commençait à se remplir. Le trou d'eau. Puis j'étais dans la côte, là.
Mm-hmm.
Fait que j'ai dit, oh boy, tu vois ça, j'avais pas prévu ça. Là. Moi, là, ça te donne, là, c'est parce que par expérience que je peux te dire ça. Là.
Mm-hmm.
Mais quand tu apprends, tu sais pas. Là, j'ai perdu les. On avait 75 cerisiers, ils sont tous morts, des poiriers. Mais ils étaient dans la côte. Fait que. Mm-hmm. C'est ça, là. T'apprends à la dure.
T'apprends à la dure, puis c'est vraiment l'expérience qui rentre
qui rentre en ligne de compte.
Bien, merci beaucoup, Michel, d'être venu nous jaser aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir.
Et comme, oh,
je vous invite à venir nous rencontrer à la ferme. Ça va nous faire plaisir de vous servir un verre de vin.
Oui, puis c'est quoi l'adresse de la ferme?
C'est le 1341 Chemin Rollin à Saint-Pascal-Bellon.
Bien, merci beaucoup, Michel.
Merci, bonne journée.
Merci, toi aussi.
Bye-bye.
Cette émission a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.